L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Il a réuni près de 6000 participants et journalistes venus d'une centaine de pays. Dans le cadre du sommet et du Forum économique Russie-Afrique, un total de 92 accords ont été signés. Le volume des accords, dont les valeurs ne constituent pas de secret commercial, s'élève à plus de 1000 milliards de roubles, soit plus de 10 milliards de dollars américains. Les participants au sommet ont mis au point un plan d'action de partenariat Russie-Afrique pour 2023-2026 qui trace les grandes lignes de coopération entre Moscou et les pays africains. Dans cette nouvelle édition de l'Afrique en marche, à l'occasion de la tenue de ce forum, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios, en direct de Saint-Pétersbourg, Karim Bouhout, homme d'affaires marocain, et Serge Vémé, ancien fonctionnaire international français et journaliste indépendant. Avec eux, nous allons discuter du contexte de la tenue de ce sommet et des opportunités qu'il ouvre pour la coopération afro-russe. Avant d'entamer cet entretien, j'aimerais donner la parole à Fred Membe, président du Parti socialiste zambien, et Audrey Chico, femme d'affaires camerounaise, PDG de la Société mécanique de précision MSMI, classée Société stratégique. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Le deuxième sommet Russie-Afrique vient de s'achever à Saint-Pétersbourg. Quelles sont vos impressions sur cet événement et comment l'évaluez-vous?
From the Western media, that this was a flop and so...
Les médias occidentaux ont rapporté que ce sommet avait été un échec, qu'il n'avait pas attiré beaucoup de monde et que les gens étaient restés à l'écart. Mais qu'attendiez-vous des médias occidentaux? Quand ont-ils rapporté quelque chose de positif sur la Russie? Selon eux, tout ce qui concerne la Russie est un échec. Et si c'est un succès, il est attribuable à quelque chose de négatif. La vérité, cependant, c'est que le sommet a été un grand succès. Toutes les régions d'Afrique y ont participé. Les Africains de l'Ouest étaient présents. Les Africains du Sud étaient présents. Les Africains de l'Est étaient présents. Les Nord-Africains étaient présents. Le président des Comores, qui est le président de l'Union africaine, était aussi présent à Saint-Pétersbourg. Et aussi, il y avait tant d'universitaires, tant de gens d'affaires qui ont participé au sommet. Donc, à mon avis, et en toute honnêteté, ce sommet a eu un grand succès. Mais n'oublions pas non plus que nous vivons une période très difficile dans laquelle le sommet s'est tenu. Il y a une guerre contre la Russie en Ukraine. Et tout a été fait en termes de propagande pour s'assurer que les gens restent à l'écart, que les gens aient peur de venir. Mais... compte tenu de tout cela, la participation a été très bonne et le sommet a été un grand succès à mon avis.
Dans la déclaration finale de ce sommet, la Russie et les pays africains ont convenu de s'opposer à l'utilisation de mesures restrictives, illégitimes et unilatérales. Quelle est votre vision de l'utilisation occidentale des sanctions et de leurs conséquences? Et pensez-vous que cette pratique occidentale devrait être abandonnée?
The Western practice is bad.
La pratique occidentale est mauvaise. Cette planète ne sera pas un endroit sûr pour certains d'entre nous s'il n'y a pas de sécurité pour tous. Cette planète ne sera pas un endroit paisible pour certains d'entre nous si elle n'est pas juste et paisible pour tous. Les sanctions imposées unilatéralement à un pays sont injustes, inéquitables et cruelles. Elles constituent une guerre hybride. Lorsqu'on commence à voler les biens d'un pays, on appelle ça une guerre hybride. Ils ont volé les actifs du Venezuela. Ils ont volé les actifs de la Russie. Ils volent les actifs d'autres pays qu'ils sanctionnent. Ils gèlent unilatéralement les ressources d'autres pays. Ils sont même allés jusqu'à violer leurs propres principes de respect de la propriété privée. Cet ordre n'est pas viable. Il n'est pas possible de créer un monde pacifique de cette manière. Il n'est pas possible de créer un monde plus juste et plus équitable de cette manière.
Selon vous, pourquoi les pays occidentaux et en particulier les États-Unis d'Amérique continuent-ils à pousser les pays africains à adhérer à ces sanctions contre la Russie?
These are neo-colonies. We defeated the classical colonial.
Il s'agit de néocolonialisme. Nous avons vaincu le colonialisme classique, mais il a réapparu sous une nouvelle forme, le néocolonialisme. Les nouvelles colonies perdent leur souveraineté. Elles perdent leur capacité à prendre leurs propres décisions. Les décisions sont prises par les puissances néocoloniales. Qu'avons-nous donc dans certains pays ? Des régimes fantoches, des régimes néocoloniaux qui se laissent dicter ce que veulent leurs maîtres. Aujourd'hui, nous avons une situation au Niger avec un coup d'État. Ils réagissent très violemment contre ce coup d'État, comme ils ne l'ont fait nulle part ailleurs. Il y a eu des coups d'État en Amérique latine. Les États-Unis n'ont pas agi de la sorte parce qu'ils ont été à l'origine de ces coups d'État. Pourquoi réagissent-ils et mobilisent-ils tout le monde pour s'opposer à ce coup d'État ? Premièrement, les États-Unis possèdent la plus grande base de drones au Niger. Deuxièmement, le Niger est un producteur d'uranium et de pétrole. Ils veulent donc un régime fantoche au Niger.
Mesdames et messieurs, je vous salue à nouveau depuis Saint-Pétersbourg dans nos studios Sputnik Afrique. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Madame Audrey Yetna Chico, femme d'affaires et chef d'entreprise camerounaise. Madame Chico, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup, Kamel.
Alors, j'ai vu aujourd'hui, comme vous nous l'avez promis lors de notre dernière rencontre à Moscou, que vous avez signé pas mal de contrats, pas mal de mémorandums d'entente. Et je crois que ce forum, est-ce que c'est un forum qui vous a souri, comme on dit, comme il faut? Et pouvez-vous nous en dire un peu sur tous les contrats que vous avez signés?
Alors, disons que c'est ce que je prévoyais, c'est ce que j'ai dit à tout le monde depuis, je chante ça depuis des mois. On a pris un virage à 390 degrés et ce forum n'a pas été décevant du tout. Et ceux qui étaient prêts ont cueilli les fruits de ce forum. Mm-hmm. Moi, en particulier pour MSMI, le groupe, je vais dire maintenant le groupe MSMI, parce que le groupe, ça fait un groupe, parce qu'il y a MSMI, il y a MSFA, la nouvelle entreprise russe, et Botafogo Club, qui est aussi du groupe. Pour nous, nous avons signé, j'ai signé 12 contrats en dehors de ceux que j'ai signés avant. Dans les 12 contrats, il y a 6 Memorandum of Understanding et ça prend effet immédiat. Mm-hmm. Parce que nous nous sommes préparés depuis très longtemps pour ça. Et pour moi, ce sommet, c'était le sommet de toutes les attentes et je pense qu'à partir de maintenant, on va pouvoir, on va décoller véritablement avec l'Afrique. En tout cas, notre groupe, parce que faut savoir, nous avons formé un groupe finalement, définitivement, d'industriels pour travailler avec l'Afrique.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu juste, au moins les plus importants contrats ou accords
Les plus importants, on a déjà, je vais commencer par le nerf de la guerre qui est l'argent. On a Exim Bank of Russia qui nous soutient, qui soutient dans toutes les entreprises russes qui vont aller en Afrique et qui nous soutient parce que nous avons un gros portefeuille. Nous avons dans le secteur de l'énergie l'entreprise Sputnik, qui fait des miracles hein, dans le niveau au niveau énergétique, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie les énergies alternatives. Ensuite, nous avons le laboratoire pharmaceutique. Nous avons également une entreprise avec laquelle nous allons fabriquer des bateaux. J'aime bien celle-là parce que ça me rappelle un bout d'un film avec Julia Roberts. Où le patron a décidé finalement, en rencontrant un autre patron, où il devait racheter l'entreprise, ils ont décidé de faire ensemble de très grands bateaux. Ouais. Donc nous avons décidé de faire des bateaux. Dès demain, nous irons dans l'usine. Et ensuite, nous avons également signé avec une société qui peut faire dans la conservation de tous les aliments. Je dis bien de tous les aliments, du poisson, du fruit, du poisson, donc de la viande, du fruit. Même, on va jusqu'aux farines. Et des farines adaptées à notre position.
Mm-hmm. C'est-à-dire que les farines qui
peuvent être produites chez nous.
Des graines.
Voilà, on a plus de féculents, en fait. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est féculent. Ensuite, on a signé avec on a signé tellement de mémorandums là, je sais plus. On a signé avec les plus importants, avec un gros équipementier sportif. Nous serons les seuls représentants en Afrique pour cet équipementier sportif et dans tous les secteurs du sport. Mmh. Nous avons également signé avec d'autres partenaires, un projet de télévision. Là, je ne donnerai pas de détails du tout. Mais il est aussi déjà cuit. Il est déjà bien ficelé. Il est prêt. Donc, tous nos projets sont prêts. Kamal, ça, c'est ce que je peux dire. C'est que tous nos projets sont prêts. Même si c'est demain que le président Poutine veut qu'on lui pose ses projets sur la table, on va le poser. D'ailleurs, et Exim Bank of Russia, on a signé le contrat avant la plénière.
D'accord.
Voilà.
Donc, vous l'avez signé hier, avant la plénière.
Hier, avant la plénière.
D'accord.
C'était le premier contrat du forum.
D'accord.
Le premier contrat du sommet a été signé hier.
C'est un important point d'honneur.
Oui.
Pour tous les participants.
Oui.
Bien. Alors, nous pouvons que nous en réjouir pour tout ce succès. Mais je voudrais aussi vous poser une petite question. Vous avez assisté hier à l'intervention du président russe. Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé et qui vous donne, je ne sais pas, peut-être de l'espoir pour que les relations russo-africaines puissent se développer beaucoup dans les années à venir?
Ben, disons que, en fait, le discours du président Poutine d'hier, c'était comme un déroulé de ce que nous avons fait comme projet sur le plan stratégique avec l'Afrique. J'ai eu l'impression qu'il ne faisait que dérouler notre préparation pour nous lancer à l'assaut de l'Afrique. Parce que ça, comme il a dit hier, c'est de ça qu'il s'agit. Se lancer à l'assaut de l'Afrique avec des entreprises russes. Moi-même aujourd'hui, j'ai une entreprise russe dont je fais partie.
Ouais.
Non, je suis dans les deux sens.
J'allais vous poser justement la question.
Voilà, je suis dans les deux sens.
Je rappelle à nos auditeurs que Madame Chico a tenu à tous ses engagements. Donc, en plus des projets de coopération qu'elle a signés, elle a créé son entreprise russe.
Voilà.
Et qui a son siège à
Moscou City.
À Moscou,
voilà.
City.
Ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas évident, mais il fallait quand même que ce soit de la taille de projets, des projets que nous sommes en train d'envisager. Et ce qui m'a le plus frappé encore, c'est que il est sorti par le sport. Depuis que je leur dis que nous avons notre équipe a créé un boulevard pour le sport à travers d'abord le football avec Valérie Nepomniachtchi qui est le directeur de ce projet. Et quand il a fait cette sortie...
Et Valérie Nepomniachtchi, je rappelle juste à nos auditeurs, notamment les jeunes qui ne connaissent pas, c'était le sélectionneur de l'équipe nationale de Cameroun lors de la Coupe du Monde.
Et c'est grâce à lui que l'Afrique a ses 5 places aujourd'hui.
Je rappelle, c'était la première équipe africaine qui arrive au quart
de finale. Et c'était grâce à Valérie Nepomniachtchi. Et on
c'était
a
un sélectionneur russe.
Russe. Et le projet est tellement vaste. On a, entre autres, j'étais en train de vouloir oublier les universités, l'enseignement, la formation. Parce que je ne dis pas l'enseignement, je parle de la formation. Nous allons devoir former des gens. Ici, on a déjà quand même au minimum 400 places en formation. Tous les secteurs confondus. Donc, on commence par le commencement. La formation, transfert de technologie et installation sur place des entreprises, exportation directe. On va démarrer directement dès lundi. C'est parti. Pour nous, c'est parti dès lundi. Donc, je suis très contente parce que je vois la foi que les Russes ont mis en moi, en notre groupe. Et je pense que nous n'allons pas les décevoir parce que nous nous préparons à cela depuis très longtemps. Je salue ici, je profite. Mon ami Kamal n'aime pas souvent que je le salue, mais je profite pour saluer M. Kamal parce que Afrique, jeune Africain, si vous saviez le travail que ce monsieur a bas pour que l'Afrique puisse retrouver son honneur, son blason, son histoire, pour qu'on puisse redevenir les industries qu'on était il y a 100 ans, 200 ans.
Ouais.
C'est quelqu'un qu'il faut remercier. Moi, je dirais qu'il faut lui donner une médaille africaine. Ça, je le dis clairement. Je ne dis pas parce que c'est mon ami, mais je vous assure que ce type, ce monsieur, a bas un travail énorme. Donc, je vais dire, le président Poutine également, il a été ferme. Son discours d'hier était très ferme. Maintenant, ceux qui ne veulent pas changer de paradigme pour prendre le sens de la bipolarité mondiale qui est existante déjà, ben, ils vont juste rester en arrière. La nouvelle monnaie, ça a été annoncé hier, la nouvelle monnaie, il n'y aura plus de monnaie. Le change va se faire avec l'or. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de l'or. Je vous rappelle là dehors, si vous voulez vendre votre or, vendez-le très cher. Parce que beaucoup de gens sont à la recherche de l'or, parce que à partir de la fin septembre, fin août, les échanges se feront avec l'or, plus avec une monnaie. C'est fini cette dictature-là de la monnaie. Donc, je suis très content de ce forum.
Eh ben, nous ne pouvons que vous souhaiter, madame, beaucoup de succès. Merci pour votre compliment. Nous ne faisons que notre travail, honnêtement. Et merci de nous avoir encore rendu visite. J'espère que nous allons continuer à faire des rencontres de temps en temps et pour voir et accompagner cet élan de coopération dont vous donnez un exemple qu'il est possible.
Effectivement, non seulement il est possible, nous sommes déjà en train de le faire. Nous avons des produits qui portent déjà les drapeaux. Par exemple, on a des produits qui portent le drapeau russe et le drapeau camerounais. Et ces boutiques, ces produits vont aller dans la boutique Made in Russia. Et à l'inverse, nous allons faire une boutique Made in Cameroun à Moscou. Je ne sais pas si ce sera peut-être à Perm, mais c'est à Moscou d'abord qu'on commencera la première. Et sincèrement, je ne sais pas quoi dire parce que quand il a fini son discours hier, le président Poutine, j'ai su que c'est tout ce que j'attendais. C'était le dernier clou qu'il a posé hier et c'est parti. Tous ceux qui n'ont pas compris que c'est parti, je suis désolé pour eux, il va falloir qu'ils comprennent que c'est parti.
D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Chico. Ça a été un plaisir encore une fois. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour. Je vous salue depuis Saint-Pétersbourg, de nos studios, à l'occasion du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Je rappelle que c'est le second ou c'est le deuxième forum après celui qui a été tenu en 2019 à Sochi. Alors, pour cet entretien, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir à mes côtés Monsieur Serge Vémé, un journaliste indépendant, ex-fonctionnaire international, et à ma droite, Karim Bouhout, PDG du groupe industriel Prime Group. Donc, messieurs, bonjour et bonjour, merci bonjour. D'avoir accepté bonjour. De nous accorder cet entretien. Bien. Alors, monsieur Serge Vémé, que pensez-vous de ce forum, de tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Et en particulier de l'intervention du président russe.
La première chose que je peux dire, c'est que ce forum est une partie d'un jeu plus large de changement de l'axe du monde. C'est un moment même assez émouvant où une nouvelle histoire est en train de s'écrire. Cette histoire a au moins deux volets. Il y a un volet militaire avec l'opération spéciale. Et c'est d'ailleurs, je rends hommage à la puissance invitante puisque les Russes sont les premiers Européens à mettre leurs pieds au derrière de l'hégémon américain. Et on espère que ça sera suivi par d'autres peuples qui pourraient eux aussi se décoloniser. Mais on reviendra sur cette question. Et puis il y a un volet diplomatique et le sommet Russie-Afrique en fait partie. Au même titre d'ailleurs que l'émergence des BRICS. L'Afrique, aujourd'hui, je pense, achève sa décolonisation.
D'accord.
Voilà, au moment, peut-être c'est un hasard du calendrier, mais au moment où les populations occidentales sont soumises à un joug de plus en plus violent, puisque les élites comprador au service exclusif du mondialisme, se mettent à presque coloniser leur propre population et les exploiter sauvagement. Voilà, donc c'est un renversement complet du monde. Et encore une fois, c'est très émouvant. J'étais pas au premier sommet Russie-Afrique. Là, on sent réellement que le monde est en train de changer de base. Si on veut être cuistre, on peut dire qu'il y a un nouveau nomos de la Terre qui est en train de naître. Voilà.
D'accord. Monsieur Serge Vémé a touché un sujet très sensible qui est celui de recouvrer sa souveraineté, son indépendance, son épanouissement du colonialisme. Cette question-là, bien sûr, le volet économique est plus que crucial et fondamental. Alors, monsieur Karim Bouhout, d'abord, dites-nous quelque chose sur votre groupe. Qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui ici à ce forum? Et puis, qu'est-ce que vous attendez comme retour en termes de coopération avec les entreprises russes.
Mais écoutez, je vous remercie de cette invitation. En ce qui concerne Prime Group, donc moi je suis africain, donc marocain. Prime Group opère en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, dans différents secteurs d'activité, donc l'investissement minier, le trade des matières premières, l'investissement agricole. Nous avons aussi une ONG qui s'appelle Instituto Prime Group, dont l'objet est d'aider les populations africaines. Notre objectif dans ce nouveau monde, qui est en train de s'inscrire sur le plan économique, évidemment, on est très soucieux en ce qui concerne l'Afrique, toute la partie security food, donc pour les populations.
C'est-à-dire la sécurité alimentaire.
Sécurité alimentaire, tout à fait. Et en même temps, la Russie joue un rôle extrêmement important à ce niveau-là, ainsi que sur la partie énergétique. L'Afrique aujourd'hui cherche des nouveaux partenaires et à s'émanciper complètement pour faire partie des acteurs de la gouvernance mondiale. Et donc aujourd'hui, on assiste à une tectonique des plaques, même sur le plan économique, puisque il y a des nouvelles options qui sont en train d'émerger, même par rapport à l'ingénierie financière. Par exemple, le système SWIFT va être concurrencé par d'autres systèmes russes et chinois. Et il y a une réflexion globale des opérateurs économiques africains qui souhaitent aujourd'hui devenir des champions au niveau international, pour peser sur le plan économique. Un pays doit se développer, évidemment, grâce à sa diaspora, il doit se développer grâce à sa population et à l'ingénierie de sa population, mais doit aussi se développer grâce à la qualité de ses opérateurs économiques. Et en Russie, c'est une nouvelle façon de collaborer en termes de partenariat, parce qu'on est dans un partenariat win-win. Et la plupart des Africains aujourd'hui font très attention avec tous les partenaires, peu importe d'où ils viennent, à ce que les relations ne soient pas d'une relation dominante-dominée, mais une relation fraternelle entre citoyens du monde qui permettent d'évoluer D'accord. ensemble. Voilà.
Bien, alors vous avez dit que votre groupe travaille dans cette question de la fondamentale de la sécurité alimentaire. Je rappelle que vous êtes président, directeur général du groupe Prime Group.
Absolument.
Alors, et vous travaillez sur ce domaine-là de l'agriculture, de la sécurité alimentaire.
Absolument.
Alors, dans la situation-là actuelle, avec ces sanctions, d'abord, on aimerait bien savoir comment les gens arrivent à surmonter les problèmes qui se sont posés après les sanctions en Afrique de l'Ouest, en Afrique. Et vous, en tant qu'opérateur économique, comment vous arrivez à travailler, même s'il y a ces problèmes.
Il y a différents facteurs qu'il faut tenir en compte. Un premier facteur, à cause des sanctions, de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan géopolitique, c'est la montée des cours des matières premières, donc qui automatiquement a une incidence sur le coût de la vie des Africains.
Absolument.
Il y a le deuxième volet qui est important, c'est que en Afrique doit trouver sa sécurité alimentaire par elle-même. Donc il faut qu'il y ait des investissements massifs dans l'agro-industrie pour avoir sa propre autonomie. Et en même temps, l'Afrique doit remodeler son système bancaire pour avoir accès au loyer de l'argent qui est beaucoup plus facile et faire émerger donc une classe moyenne. Et tout simplement, les Africains sont en train de se rendre compte qu'ils doivent créer de la valeur ajoutée avec leurs matières premières dans une relation égalitaire avec tous les partenaires. Donc voilà un peu
Mais sur le plan de l'agriculture, par exemple, prenons l'exemple des problèmes des céréales. Je ne sais pas si votre groupe opère dans
tout
ce domaine.
Oui.
Et donc, comment est la situation?
Bon, la situation actuelle, elle est assez tendue au niveau de tout ce qui est céréales. Et vu l'accord qui a été rompu dernièrement entre la Russie et l'Ukraine concernant toutes les céréales, évidemment, il y a une inquiétude généralisée par rapport à la famille et cette problématique. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut trouver d'autres formules pour résoudre ce problème. Peut-être directement en faisant un trade avec la Russie et éviter un peu tous ces conflits.
Dans les monnaies nationales, par exemple?
Bien sûr, dans la multimonnaie, évidemment. Donc, on est obligé aujourd'hui, de toute façon, tout le monde essaie de s'émanciper de monnaie dominante. Et on veut être dans un monde où il y a des portefeuilles de monnaie, où tout le monde a sa place. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de sortir des anciens schémas économiques et de faire émerger des nouveaux, où chacun est libre de choisir son partenaire, chacun est libre de s'émanciper avec ses propres valeurs. Et voilà, donc on essaie d'aller vers un monde économique un peu plus juste. C'est ça un peu l'objectif même de notre groupe, Prime Group. Donc c'est avant tout être dans l'équilibre, mais ne pas être uniquement dans un gain constant pour la constance, mais créer de la valeur ajoutée dans nos pays, créer de la richesse, être un exemple pour les populations futures. Voilà un peu l'objectif de notre mission.
D'accord. Mm-hmm. Bien. Alors, Monsieur Serge Vimet, Karim Bouhout vient d'aborder une question qui est très, très importante, celle de la sécurité alimentaire. À votre avis, la présence de toutes les délégations africaines dans ce forum, est-ce que, justement, marque cette volonté de l'émancipation du diktat de toutes les puissances de l'argent et de toutes les puissances qui contrôlent et qui ont mis la main sur la nourriture de l'être humain? Et est-ce que ce sommet peut être justement le point de départ à l'établissement de la production locale, développer locale, transformer localement et donner la sécurité alimentaire, la sécurité de l'emploi, pourquoi pas, aux Africains?
Absolument, je pense que, effectivement, d'une part, il y a plusieurs choses sur cette question. La première est que je pense que la gouvernance globale est à l'agonie, un peu. On voit mal. Enfin, on sait que Janet Yellen a parlé de mondialisation entre amis, donc c'est vraiment... On a le sentiment, nous, d'être du mauvais côté du rideau de fer, hein, aujourd'hui, qu'il semble que les institutions, du fait de la dédollarisation, les institutions de Bretton Woods vont plus ou moins... au moins perdre en légitimité et sans doute disparaître. Et puis la deuxième chose, quant à la question agricole, moi il me semble, mais je suis pas un spécialiste, mais il me semble que l'important c'est de transformer sur place, au-delà du commerce céréalier, de pouvoir transformer sur place. Et peut-être réanimer les productions locales, effectivement, parce que on sait que les campagnes africaines n'arrivent pas à nourrir les villes, et qu'il y a un phénomène d'exode rural qui est permanent depuis des dizaines d'années, qui nuit gravement. Donc il faut absolument faire en sorte que de réanimer ces productions locales et autant que faire se peut, de transformer sur place les matières premières. Ça, c'est important. Et puis, il y a aussi le volet plus industriel. Il est quand même étonnant que l'Afrique ait deux des plus importants producteurs d'uranium dans le monde et qu'il n'y ait aucune centrale nucléaire en Afrique. Mmh. Donc là, je pense que la coopération avec la Russie peut avoir son importance. Et puis, pour terminer...
Et comme il n'y a pas de développement sans énergie,
absolument,
sans eau...
Il n'y a pas d'économie sans énergie.
Évidemment.
Simplement.
L'économie, c'est l'énergie.
C'est de l'énergie transformée.
Transformée, tout ça.
Voilà. Voilà. Et puis on parlait effectivement de tradition. Je pense que effectivement, alors il y a plusieurs Afriques. C'est difficile de parler de l'Afrique en général, mais on a des peuples en Afrique qui sont attachés à leur tradition. La Russie est également un pays attaché à la tradition. Ça ne les empêche pas. Je pense que c'est quelque chose de très important qu'on a perdu dans le monde occidental. Et que je voudrais rendre hommage à un auteur aujourd'hui disparu qui s'appelait Guillaume Fay et qui a écrit l'archéofuturisme. C'est-à-dire que des peuples attachés à leur tradition peuvent aussi aller de l'avant.
Oui.
Et on est tous un peu ici des archéo-futuristes, en fait, hein, attachés aux traditions, capables, je pense, de s'entendre sur des projets qui définiront le 21e siècle. Je pense que réellement, le 21e siècle est né là, cette année, en fait. Et ça, c'est un des marqueurs importants. Vers le sommet des BRICS, sur la fin de l'année, je pense qu'on est vraiment à un tournant majeur de l'histoire du monde, aujourd'hui même.
D'accord. Bien. Alors, Monsieur Karim Bouhout, j'aimerais avoir votre avis parce que c'est très important d'avoir l'avis des hommes de terrain.
Oui.
Donc, les discours politiques, les Africains sont habitués, hein, les discours triomphalistes et tout. Mais la parole des hommes de terrain, qui connaissent les contraintes, qui travaillent pour relever les défis, est aussi important. Alors, bien. Alors, moi, j'aimerais vous poser la question et pour expliquer aux partenaires russes. Il y a beaucoup encore qui hésitent, qui se disent « Oh là là, l'Afrique, c'est un continent qu'on ne connaît pas. Peut-être que si on investit, on ne récupérera pas même un centime de ce qu'on aurait investi. » Alors, je vous pose la question en tant que PDG de Prime Group. Est-ce que c'est intéressant d'aller travailler en Afrique ? dans les domaines de l'énergie, dans le domaine de minier, dans l'agriculture, le médicament, la transformation des matières premières. Est-ce que c'est intéressant?
Oui.
Et en tant que financier, est-ce que et il y a des garanties aussi à pour que les gens qui investissent en Afrique ne perdent pas leurs investissements?
Oui, évidemment qu'il y a un intérêt certain pour l'Afrique, et l'Afrique est un terrain dans lequel les grandes puissances, chacun veut se positionner dessus. Et entre autres, il y a la Russie. Quand on voit aujourd'hui l'Afrique d'aujourd'hui par rapport à l'Afrique d'il y a 40-50 ans, la salle d'attente africaine, il y a tout le monde. Il y a les Indiens, les Chinois, les Malaisiens, les Brésiliens, les Russes, donc tout le monde est là. À l'intérieur même de l'Afrique, il existe aujourd'hui, grâce à l'ASLICA, une coopération sud-sud.
L'ASLICA, c'est la zone de libre-échange africaine.
Donc on est dans quelque chose qui est en plein mouvement et en plein essor. Évidemment, il existe des défis en Afrique, qui sont des défis démographiques, des défis accès au financement. Il y a encore des défis d'infrastructure, donc ce sont des défis qu'il faut mener. Mais n'importe quel investisseur averti, et si la Russie fait son deuxième sommet Russie-Afrique, c'est que la Russie a très bien compris qu'il y a un intérêt géostratégique important en Afrique, que sur le terrain, il y a des investissements majeurs et une valeur ajoutée que la Russie peut ramener, évidemment en Afrique, qui est une autre voie, qui est complètement différente des Chinois, des Indiens ou des Sud-Américains ou des Européens. Donc, moi, je pense que on est dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus petit, où les décisions doivent se prendre de façon collégiale, et la sécurité des investissements en Afrique sera faite quand la gouvernance africaine sera dans la prise de décision aussi. Dans la prise de décision, dans les organes de gestion financiers, dans les organes politiques. Et c'est comme ça qu'on est dans une sécurité. Donc, il faut plus qu'il y ait de paternalisme, en fait, en Afrique, mais qu'il y ait une émergence de responsabilité. Et l'Afrique, aujourd'hui, émerge avec beaucoup de responsabilités. C'est un continent qui va avoir plus de 2 milliards d'individus très prochainement.
En 2050.
Et donc, qui va compter sur le plan démographique. Et très souvent, les gens suivent les financiers ou les économistes, mais souvent, il faut suivre la courbe démographique, parce que c'est là où on voit où vont aller les tendances, les tendances futures.
Il n'y a pas d'économie sans
démographie. Et donc là, on va avoir émerger une classe moyenne en Afrique importante. Il faut créer des mécanismes à ce que la jeunesse africaine puisse accéder à cette capacité de développement et c'est une jeunesse qui a soif de monde, qui a soif de réussite et qui n'est pas des fois très souvent décrite comme belliciste, mais bien au contraire, elle est beaucoup plus apaisée avec elle-même et en accord avec son histoire. Évidemment, il y a plusieurs Afriques, comme disait Serge, qui ont des logiciels et des histoires qui sont différentes. Donc, mais ça reste, on retrouve cette même énergie à Addis Abeba, à Kinshasa, à Alger, à Casablanca, à Abidjan, etc., d'une jeunesse qui a envie de faire, qui a envie de créer, qui a envie de partager, qui a envie de ramener sa contribution au monde. Pas uniquement sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, etc.
D'accord.
Donc voilà, et dans la réalité, en fait, pour les investisseurs russes, pour répondre de manière plus précise à votre question, il existe aujourd'hui en Afrique tout le type d'investisseurs qui viennent en Afrique et qui se battent pour venir en Afrique pour tout type d'investissement. Et les Russes ne seront pas moins maltraités qu'ailleurs, bien au contraire. Ils sont les bienvenus avec leur ingénierie, leur technologie. Et il faut pas oublier que la Russie a une histoire exceptionnelle avec l'Afrique depuis l'époque de l'URSS. Beaucoup d'étudiants africains et d'ingénieurs ont étudié en Russie. Donc il existe réellement un fil conducteur entre ces pays-là. Et je pense qu'il y a un avenir très très radieux dans les années à venir, dans toute cette énergie. C'est le plus important dans la vie, c'est de gagner la bataille des cœurs. Et quand les cœurs veulent être ensemble, là, les choses automatiquement elles émergent et le rêve est possible.
D'accord. Mm-hmm. Donc, juste une toute petite question beaucoup plus technique.
Oui.
Alors, dans le cadre de les sanctions qui ont été décrétées d'une manière unilatérale contre la Russie, vous, en tant que PDG de Prime Group, si vous trouvez des partenaires russes ici, est-ce qu'il n'y aura pas de problème pour les transferts des capitaux, soit pour les investir ou pour ramener les dividendes ou pour les protéger?
Évidemment qu'il y a des mécanismes qui vont être créés et souvent les sanctions ne font que elles font en sorte que les individus essaient de trouver d'autres mécanismes. Et donc, il y a d'autres mécanismes qui sont en train de se mettre en place. Afreximbank a créé une plateforme qui est exceptionnelle, par exemple, pour le trade et qui permet à ce qu'on puisse commercer avec des monnaies différentes. Et en même temps, il y a une proposition exceptionnelle de la Russie qui est à ce que les banques africaines soient connectées à l'équivalent du système SWIFT russe pour pouvoir commercer et de manière sûre entre elles, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui sont en train d'installer. La banque des BRICS est prête à accompagner tout ce mouvement-là. Il faut pas oublier aujourd'hui, c'est que le monde, le nouveau monde aujourd'hui dans lequel il y a le Brésil, il y a les pays africains, il y a l'Inde, il y a l'Asie, il y a la Chine, etc. C'est un monde qui, sur le plan géographique, représente la majorité de la planète. Ouais. Donc, automatiquement...
Y compris démographique.
Et voilà. Et donc, ce monde a envie de travailler ensemble. Et la qualité des ingénieurs aujourd'hui à travers le monde, dans tout ce nouveau monde, ils peuvent avoir sa propre autonomie et avoir sa propre indépendance de travail sans aucun problème. Sans toujours, évidemment, rentrer dans l'aspect politique, parce que c'est certain que même les aspects historiques qui existent entre l'Occident et l'Afrique vont rester, ne serait-ce que par la langue, la culture, oui, etc. Absolument. Mais ils vont évoluer au niveau des peuples. C'est entre les peuples que les choses vont évoluer. Et donc, on va sortir, on va aller vers, à mon avis, d'autres schémas qui seront beaucoup plus prometteurs. Mais nous sommes très, très confiants. J'ai des très gros partenaires russes avec lesquels nous sommes en train de signer des accords importants dans plusieurs secteurs d'activité, plusieurs domaines, et que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'ingénierie minière, etc. Donc, on est en train d'essayer d'évoluer sans aucun problème.
Et donc, c'est des partenaires pour aller en Afrique.
Absolument, absolument.
D'accord. Absolument. Bien. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Serge Vemé. Par rapport à ce que vient de dire Karim Bouhout, donc les sanctions, apparemment, c'est une plaisanterie et que, bon, elles ont créé un problème, mais surtout, elles créent beaucoup d'opportunités. Donc, nous l'avons vu dans l'économie russe, que ce soit en 2014 ou en 2022. Et pourquoi pas ne pas le voir en Afrique aussi? Et faire en sorte que les difficultés qui sont créées par la situation actuelle soient un leitmotiv pour se lancer dans justement l'aspect-là de souveraineté économique en produisant dans l'agroalimentaire et en transformant les matières premières localement.
La souveraineté, oui, c'est le mot-clé, effectivement. Les sanctions ont quasiment été une bénédiction pour l'économie russe, on peut quasiment le dire. Monsieur parlait de la conquête des cœurs tout à l'heure, mais il y a aussi la conquête des cerveaux. Il faut absolument que l'Afrique non seulement forme des élites, mais aussi qu'elle les garde, parce que jusqu'à maintenant, elle a été largement pillée. Hein. Il y a énormément de médecins, notamment en Algérie, qui sont formés.
Au Maroc aussi. Maroc, en Tunisie. Des milliers qui partent pour l'Europe.
Il faut trouver les moyens de leur donner effectivement des raisons de rester. Ça doit être un débat interne, intérieur. C'est les Africains qui doivent savoir ce qu'ils doivent faire de ça. Les Russes peuvent peut-être aider, mais c'est d'abord une question effectivement de souveraineté et une question de choix politique indépendant. Mm-hmm. C'est indispensable.
D'accord. Alors, par rapport à ça, monsieur Karim Bouhout, vous êtes un homme de terrain. Certainement, vous avez l'habitude de recruter des gens.
Oui.
D'accord, qui connaissent pas le travail, qui sont un peu peut-être pas sûrs d'eux-mêmes, et ils vous en faites après des cadres de votre
absolument
de votre compagnie. J'aimerais poser quand même une petite question qui a un aspect philosophique. Serge vient de soulever un point très important en disant que en plus de la conquête des cœurs, il faut aussi la conquête
des cerveaux.
Absolument. Des cerveaux. Et je crois que il veut dire donner la possibilité à la jeunesse africaine à ce que sa créativité explose chez eux, qu'ils aient la joie d'apprendre, la joie d'inventer, la joie de découvrir. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas d'être humain sans fierté, la fierté de contribuer au développement de leur pays. Alors, cet aspect que moi je qualifie de culturel, parce que les Africains, en Afrique ou dans les pays arabes, ou partout, quand il y a un échec économique ou un échec politique ou un échec industriel ou scientifique, c'est tout simplement un corollaire de l'échec culturel. Mais culturel, qui veut dire culture, c'est celle, la culture de la vie, la culture de la créativité, la culture de la découverte et de l'amour de la découverte. Comment on peut justement changer les choses? Vous qui êtes un homme de terrain, justement, Prime Group, un travail avec les gens qui sortent des universités africaines, qui sortent des écoles africaines, et après, on les forme pour devenir des cadres dans l'industrie ou dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu
de notre expérience, il faut qu'il y ait toujours l'ascenseur social, doit fonctionner dans un pays pour que les gens puissent émerger et contribuer à l'économie de leur pays. Nous, sur le plan du terrain, d'abord la jeunesse africaine, elle est de mieux en mieux formée, elle est de plus en plus polyglotte, elle comprend le monde, c'est une jeunesse qui ressemble à n'importe quelle jeunesse malaisienne, singapourienne, parisienne ou autre. C'est une jeunesse qui aujourd'hui connaît les codes de l'ère de son temps. Donc on n'est plus dans les années 50 ou 60 où il y avait un réel décalage entre les populations qui étaient encore dans les campagnes, avec les pays développés, où on sentait un véritable décalage entre les deux. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a le logiciel et a la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Tout le monde aujourd'hui comprend ce qui se passe, que sur le plan géopolitique, sur le plan économique, etc. Et c'est une jeunesse qui a besoin d'être aidée de manière concrète dans le financement, les pépinières d'entreprise. Il faut créer des champions nationaux, par exemple dans le cacao en Côte d'Ivoire, où il faut créer un champion national, ou avec les Ghanéens, dans plusieurs secteurs d'activité. Il faut créer des grandes sociétés africaines pour faire des routes. 90% des routes sont faites par des sociétés chinoises.
On peut
réfléchir à des modèles et créer des gros champions dans l'agro-industrie, dans les routes, etc., où ce sont plusieurs nationalités qui se mettent d'accord ensemble. L'exemple de Airbus, par exemple, ce sont plusieurs États qui ont décidé de créer une compagnie pour fabriquer des avions. Donc ça, ce sont des multitudes d'initiatives et d'exemples qui doivent se faire. Et c'est uniquement l'intégration interafricaine et sud-sud qui pourra le permettre. Il ne faut pas oublier aussi que la véritable immigration, elle est interafricaine, et il faut créer toute l'infrastructure qui permet à l'Afrique de se développer dans son intérieur. Et c'est ça, à mon avis, le cheminement qu'il faut avoir.
Il faut que, comme disait Serge tout à l'heure, il faut que cela aussi devienne la culture populaire. Il ne faut pas que des pans larges d'Africains se sentent exclus.
Absolument, absolument. Il faut être dans une Afrique qui est sereine, qui accepte son passé, qui renoue avec son histoire et son identité, et qui doit avoir un pied aussi dans le monde moderne. Évidemment, absolument. Ça c'est certain qu'aujourd'hui, le développement, il passe automatiquement, où il faut casser certaines barrières mentales pour se dire, il faut créer une espèce de patriotisme, on va dire, économique, pour dire, on va défendre notre nation, on va se développer chez nous, on va faire les choses chez nous, on a l'amour de notre terre, nous avons tout ce qu'il faut. Et il faut aller vers ça. Il y a des exemples exceptionnels que sont des pays d'Asie du Sud-Est que je connais bien, comme Singapour, comme la Malaisie, et qui en quelques années, ce sont des pays qui ont pu rentrer dans le Nouveau Monde et qui ont émergé. Et l'Afrique, souvent on a parlé d'Afrique sur le futur. L'Afrique, c'est le futur. Mais moi, je dirais que l'Afrique n'est plus le futur. L'Afrique, c'est le présent. L'Afrique, c'est aujourd'hui. C'est maintenant que ça se passe. Et c'est maintenant que l'Afrique doit prendre les bonnes décisions dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger, cette nouvelle organisation mondiale qui est en train d'émerger. Voilà.
D'accord. Bien, alors vous me tendez la perche, justement. Serge Vumé, l'héritage de la Seconde Guerre mondiale, ce sont les institutions de Bretton Woods, les institutions internationales, l'ONU. Disons que durant la guerre froide jusqu'à 1990-91, avec le démembrement de l'Union soviétique, il y avait quand même un certain équilibre qui a donné les outils, les moyens aux ces institutions internationales d'être les garants de l'égalité, les garants plus ou moins d'un équilibre dans le développement, dans la voie politique. Mais depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ces outils sont devenus carrément des outils de domination globale.
Oui, parce que l'effondrement de l'Union soviétique étant acté, les masques sont tombés. On n'avait plus besoin de soutenir à la fois par des programmes sociaux en Occident et par l'aide au développement au Sud. On n'avait plus besoin d'avancer masquée. Donc on est arrivé au système de la pensée unique économique qui s'est imposé absolument à tout le monde. Je voulais rebondir sur ce que disait monsieur à propos de l'intégration Sud-Sud. Moi, et de la meilleure information de la jeunesse africaine aujourd'hui. Quand j'ai fait de journalisme, c'était une tarte à la crème de dire que c'est le Nord qui informe le Sud.
Ouais.
Et c'est plus le cas maintenant, et c'est très important que là, c'est bénéfice de l'Internet, puisque l'Afrique a pu sauter directement d'à peu près aucun niveau d'information à un niveau d'information équivalent à celui qu'il y avait ailleurs dans le monde. Et les Africains ont saisi la balle au bon, et effectivement, on voit ça aussi bien dans les réseaux sociaux que des nouvelles petites compagnies de médias qui existent là-bas, que ce n'est plus le Nord qui informe le Sud, sur le Sud. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important.
Absolument. Ouais. D'accord. Alors, par rapport, par exemple, aux institutions internationales qui ont servi vraiment d'outils de domination économique, le FMI, il y a ça, d'ailleurs les Africains ironisent sur ça, c'est pas le Fonds monétaire international, mais c'est le Fonds de la misère internationale, ou la Banque mondiale, il y a après
Et leur fameux plan d'ajustement structurel.
Voilà, c'est ça, c'est par rapport à ça, parce que
D'imposer l'agenda du Nord au Sud.
Absolument.
Et aujourd'hui, ça se retourne un peu contre eux, malheureusement, parce que ils ont voulu intégrer des critères ESG à l'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on va vous donner du pognon si et seulement si vous faites de la promotion de l'homosexualité, etc. Et ça, ça révulse les Africains.
Ouais, c'est niette.
Du Nord au Sud.
Absolument.
Voilà. Et donc, ça contribue encore plus au discrédit de ces organisations qui, de toute manière, n'ont plus réellement de pertinence aujourd'hui dans une économie mondiale qui se dédollarise, avec une espèce de coup d'arrêt brutal à la mondialisation lié à l'actualité internationale, à l'action militaire de la Russie, notamment, et à l'émergence donc de ce bloc des BRICS qui est en train de mettre cul par-dessus tête toutes ces organisations qui n'ont plus lieu d'être. Je me demande même dans quelle mesure l'ONU est encore réellement pertinente aujourd'hui.
Mais surtout, c'est ceux qui ont servi de moyens de pillage du pays du Sud, comme le FMI, la Banque mondiale, et après tout, et c'est quand même très étonnant de voir, par exemple, une organisation comme l'OMS devenir l'arrière-boutique de quelqu'un comme Bill Gates.
Exactement.
Qui la domine et qui indique la politique.
Absolument, mais il n'y a pas que l'OMS. Bill Gates s'est offert l'OMS, d'une part, mais il s'est aussi offert la presse occidentale. Le pouvoir a été, c'est ce que je disais en introduction, c'est des élites compradors qui font le jeu d'une mafia internationale et qui écrasent aussi bien leur propre population que les populations du Sud. Et il faut sortir de ce système et on est en train d'en sortir.
D'accord. Bien. Alors, Monsieur Karim Bouhout, par rapport à ce que Monsieur Serge Vémé vient de développer, la question de l'acquisition du savoir-faire, parce que bien sûr, il faut un développement intégré, il faut un développement interne, il faut que ce soit les Africains qui le fassent, et ainsi de suite, mais il y a quand même des domaines, moi, en tant qu'ingénieur, avant que je devienne journaliste, j'aimerais bien voir une industrie spatiale en Afrique. Pourquoi pas? L'espace, c'est pas juste envoyer une fusée ou aller planter un drapeau sur la Lune, mais le spatial maintenant, il est nécessaire dans l'agriculture, il est nécessaire pour la météo, pour les communications, pour il y a la technologie des drones qu'on peut exploiter le temps que soi-disant des infrastructures soient développées. Alors moi, ma question, est-ce que comment vont justement ce genre de choses? Pourquoi pas l'énergie nucléaire aussi? D'ailleurs, il y a des pays qui se lancent actuellement, comme l'Égypte, après l'Afrique du Sud. Il y a les pays du Maghreb qui ont des petits réacteurs de recherche. Il y a le Maroc, l'Algérie. Absolument. Est-ce que c'est un rêve ou juste un rêve? Ou comme vous disiez tout à l'heure, c'est aujourd'hui et maintenant que ça se passe et on est dans la bonne voie? Et donc là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des programmes de coopération justement pour former bien comme il faut et transférer la technologie, transférer le savoir-faire.
Absolument, absolument, tout à fait. Non, et je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'il y ait un programme de transfert des technologies sur divers secteurs d'activité, mais ce transfert de technologie doit se faire dans un cadre qui est gagnant-gagnant des deux côtés. Il y a certains pays aujourd'hui auxquels j'appartiens, comme le Maroc, qui ont émergé en termes d'industrie, parce qu'ils fabriquent des moteurs d'avion, ils fabriquent des voitures. Il y a eu une politique industrielle qui s'est faite pendant 20 ans et qui commence à donner ses résultats. Il y a un pays comme le Rwanda.
Je rappelle que le Maroc, il est arrivé même, il y a 2 ans, 3 ans de ça, à exporter 1 million de voitures.
Absolument, absolument. Un million de voitures. Donc, ça veut dire que, en Afrique, c'est possible d'aller vers un processus industriel. C'est possible de créer et de bâtir les infrastructures qu'il faut pour ça. Il faut absolument faire émerger une classe économique africaine qui seront finalement les piliers de ces pays-là. Il faut faire émerger des grandes multinationales africaines. Il faut trouver des solutions de financement pour ces multinationales-là. Et l'Afrique ne peut se développer qu'en ayant des champions nationaux. Et c'est ça qui est important. Il faut créer des champions nationaux en Afrique. Voilà, et c'est ça un petit peu l'idée de Prime Group aujourd'hui. Nous allons même lancer une pépinière pour former des jeunes justement à créer et les accompagner en termes de conseils et de financement pour créer leur propre société et leur entité. Et donc, nous, on lance un appel à toute la jeunesse africaine à nous contacter pour ça. Et on a les partenaires internationaux pour ça, pour que ce soit pour financer justement ces pépinières d'entreprise et faire croire aux rêves africains. Donc, le rêve américain, c'est une chose. Le rêve chinois, c'en est un autre. Mais le rêve africain est une réalité aussi.
Hein? D'accord. Mm-hmm. Alors, par rapport à ça, beaucoup d'économistes, notamment africains, qui disent que le fait que le franc CFA existe bloque le développement de toute l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Mais alors, vous, je vous pose la question, vous, autant qu'opérateur économique, comment vous voyez la chose et est-ce que vous souscrivez justement à ces appels à mettre terme
pour la réalité, il faut souscrire et évoluer vers une monnaie africaine forte qui sera backée sur des devises variées, sur de l'or, sur de l'énergie, etc.
Des
matières premières. Il faut avoir une indépendance monétaire, tout simplement. La plupart des pays d'Afrique aujourd'hui et de jeunesse africaine se sentent très très lésés au niveau des exportations quand il s'agit du franc CFA, évidemment, qui est baqué sur l'euro. Et même en termes de souveraineté, une monnaie qui est fabriquée à Paris et qui est africaine, c'est quelque chose qui va avec le temps ne pas être accepté ni validé. Donc, mais c'est pas facile parce que s'extraire d'anciens schémas est toujours difficile aussi. Pour les gouvernements, il faut beaucoup de courage politique pour ça et il faut une véritable stratégie et un accompagnement de grandes puissances comme la Russie, comme la Chine, comme les BRICS pour pouvoir permettre cela. Mais ce ne sont pas des choses qui vont se faire en un jour, mais ils vont se faire au fur et à mesure. Et de jour en jour, on voit qu'on gagne mètre par mètre, centimètre par centimètre et qu'on va vers... on n'a pas honte aujourd'hui de parler de nouveaux mécanismes, on n'a pas honte de dire le franc CFA est un problème, on n'a pas honte de décrire les choses. Et quand on commence à les décrire, ben c'est là où à un certain moment, comme disait Serge, les masques tombent. Et quand les masques tombent, on sait ce qu'il y a derrière et là, on sait ce qu'il faut faire. Voilà.
D'accord. Alors, Serge, mais justement... les pays africains appellent parce que les économistes, enfin qui critiquent et je crois que c'est à juste titre, nous ne pouvons pas dire autre chose que les Africains eux-mêmes disent. Ils ne sont pas là pour donner des leçons à quiconque. Alors ils disent que si la France a utilisé le franc CFA au début pour faire main basse sur les richesses des pays africains, depuis qu'il est adossé à l'euro, c'est toute l'Europe qui profite du pillage des ressources africaines.
Je suis pas certain que l'Europe profite vraiment de l'euro.
Oui. C'est sûr. Non,
l'euro,
c'est...
oui.
Les Africains non plus. Mais...
mais même les Européens eux-mêmes sont victimes de leur propre monnaie. Donc, par rapport à ça, au mois d'août, il y aura le sommet des BRICS et l'une des questions justement qui sera traitée, c'est la question de la monnaie commune. entre ces pays avec lesquels ces pays veulent échanger, mais ils invitent aussi tous les pays qui seraient intéressés, à condition qu'ils aient des monnaies nationales souveraines, à échanger avec eux dans cette monnaie. Est-ce que les pays africains, bien sûr sans être dans la posture de donneur de leçons, ont tout à fait intérêt à quitter et à s'arrimer à cette nouvelle dynamique?
Ben écoutez, le fait de se passer du dollar comme monnaie internationale, c'est effectivement le fait de se passer d'un instrument de chantage. Donc oui, les Africains, comme le reste du monde, ont tout intérêt à se débarrasser du dollar. Ou de l'euro, qui de toute manière est adossé au dollar.
Ouais, ouais.
Puisque la Banque Centrale Européenne réplique systématiquement les décisions de la Fed.
Voilà. Et même ses réserves, la plus grande partie de ses réserves sont en dollars, elles ne sont pas en euros.
Oui,
voilà.
Oui.
Alors, pour vous, M. Karim Bouhout, en tant qu'opérateur économique, comment vous voyez cette question de la monnaie, et surtout que la Russie, enfin, Sergueï Glazyev, qui travaille sur cette question-là, dit qu'il ne faut pas se précipiter à faire la même erreur que l'Europe, mais il faut d'abord commencer par développer l'aspect physique de chaque pays, commencer à échanger des choses physiques, créer ou industrialiser, et puis passer à la monnaie par la suite.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique a définitivement besoin d'avoir une monnaie qui lui permet tout simplement de s'industrialiser et de se moderniser. Mmh. Que ce soit, l'Afrique ne doit pas être otage de certaines monnaies où il faut, et ce n'est pas logique, par exemple, de passer par une monnaie tierce quand on veut commercer entre deux pays directement. Il peut y avoir des accords entre pays utilisant leur propre monnaie d'échange, comme ce qui se fait aujourd'hui déjà entre la Russie et l'Inde, entre la Chine et la Russie, et entre la Malaisie et la Chine, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut plus être dépendant d'une seule monnaie qui est dominatrice concernant les autres, parce que automatiquement, on peut pas être jugé parti. On fabrique la monnaie et en même temps, on l'impose aux autres. C'est compliqué aux autres
de
se développer.
Vous prenez un pays en Afrique, donc qui produit de la matière première, et un autre qui la transforme, même s'il est dans le continent, ils vont le faire en dollars. Alors, celui qui contrôle le dollar, il n'a ni extrait les matières premières,
absolument.
Il ne l'a ni transformé, absolument. Mais il a sa commission.
Absolument. Il faut aller uniquement vers un monde avec des mécanismes où c'est un monde plus juste. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'exclure personne, mais d'être dans un monde qui est plus juste.
Absolument.
Et qui est réel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans le monde de l'exclusion, mais il faut être dans un monde de l'intégration où tout le monde trouve sa place en termes de développement. Et la monnaie, justement, fait partie d'un mécanisme qui est nécessaire et qui est même vital pour certains pays pour pouvoir se développer. Parce qu'il ne peut pas y avoir une domination monétaire totale que d'une partie et que les autres subissent cette domination-là. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué pour beaucoup de pays. Et aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains le disent clairement. Il y a eu le président du Kenya qui l'a dit dans le dernier sommet à Paris, absolument. Et qui a très bien expliqué les choses en expliquant qu'il faudrait aller vers quelque chose, une autre réflexion, quelque chose de nouveau. Chacun a sa place, mais on met quelque chose entre nous qui est beaucoup plus juste. Sans aller dans une critique, on va dire, entre guillemets, moi, dans ma position, c'est que je ne veux pas aller vers une critique systématique de quelque chose, mais je dis, on est dans une autre ère, nous sommes dans une autre période, nous sommes dans un autre monde qui aujourd'hui, il n'est pas émergent, il a émergé, il existe, il est en face de nous, il est là. Donc, automatiquement, il faut s'asseoir autour de la table et se dire, bon, on va gérer les choses d'une autre manière et tout le monde a sa place dans la table de décision. C'est ça qui est le plus important.
D'accord.
Et puis, les pays qui ont essayé de remettre en cause l'hégémonie du dollar ont eu des difficultés extrêmes. Hein,
absolument, ouais.
Mais là, précisément, comme c'est une alliance puissante, la Russie et de la Chine, qui, bon, là, ça va forcer le respect.
Absolument. Et qui est suivi du Moyen-Orient, de l'Inde, du Brésil et d'acteurs économiques importants.
Oui, c'est plus Kadhafi tout seul.
Ah non.
On est dans une autre dimension. Et puis, en plus, le fait que c'est un nouveau monde, comme vous le disiez, et c'est très bien comme ça.
D'accord. Ben, messieurs, je vous remercie pour ce passionnant débat, riche et engagé. J'espère que votre message sera entendu. Merci encore une fois.
Merci Kamal.
C'était Karim Bouhout, homme d'affaires marocain et PDG de Prime Group, et Serge Vémé, ancien fonctionnaire international français et journaliste indépendant. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako, en direct de Saint-Pétersbourg. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.